l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Une émission qui se tourne vers des questions graves, mais pas désespérées. Le grand âge, le handicap et notamment la dépendance que peuvent entraîner ces situations. Quand on ne peut vivre seul, quelles sont les solutions ? Il y a celles qui sont bien connues, les EHPAD pour les personnes âgées dépendantes, des foyers de vie pour adultes en situation de handicap, des modes d'accueil collectifs, mais qui ne conviennent pas forcément à tout le monde, car le collectif a ses pesanteurs et ses rigidités. Et puis, il y a les familles d'accueil agréées par le département. C'est en effet le conseil départemental qui chapeaute ce service. Les personnes sont accueillies dans une famille contre rémunération de l'accueillante ou de l'accueillant. On dispose d'une chambre individuelle aménagée. On partage la vie et les activités de la famille. Bref, une relative indépendance dans un cadre protégé. Il y a 200 accueillantes et accueillants familiaux dans le Finistère. Davantage de personnes accueillies, puisqu'une famille peut accueillir plusieurs adultes. Avec nous aujourd'hui, une accueillante, Valérie Perrault, membre de l'association A2F Accueil Familial en Finistère. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est au quotidien qu'être accueillante familiale voilà, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Eh ben, accueillante familiale chez soi, c'est d'abord travailler chez soi, c'est s'occuper de personnes soit en situation de handicap, soit personnes âgées, et les accompagner dans la vie du quotidien tous les jours, 24 sur 24.
Et alors, ça peut être quel type de handicap ? C'est plutôt du handicap cognitif, c'est ça ?
Il n'y a pas vraiment de critères. Il faut être reconnu par la MDPH. Hein. Et puis, ça peut être handicapé physique, handicapé mentaux, handicapé... Tout handicap, en fait. Le tout, c'est que la personne puisse vivre au sein d'une famille, en fait.
Alors, MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, donc il y a tout un parcours, c'est ça, quand on veut être agréé, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, pour être agréé, il faut qu'on ait un agrément délivré par le Conseil général. On a tout un petit parcours, oui, avec une formation obligatoire, des visites à domicile, puisqu'on doit avoir un logement qui est adapté, une chambre minimum de 9 mètres carrés parce que c'est agréé par la CAF aussi, pour que les personnes puissent toucher les APL, etc. Et on doit avoir un projet de vie qui corresponde à peu près avec l'accueil familial. Donc on a un suivi avec une psychologue qui vient voir si notre projet fonctionne. On a la visite du conseil départemental qui vient vérifier que il y a tout bêtement du chauffage, qu'il y ait un lit, etc., quoi, pour pouvoir accueillir la personne, et qu'elle puisse se laver, enfin aller aux toilettes, bref, tous les basiques, quoi.
Ouais, parce qu'en général, il faut qu'elles aient leur salle de bain pour elles. Enfin,
pas forcément. Ah ouais. On peut partager la salle de bain. Ce qu'il y a, c'est que la personne doit pouvoir se laver. Comme tout le monde, en fait. Ni plus, ni moins.
Et vous, par exemple, vous avez dû aménager votre maison ?
Moi, j'ai acheté ma maison en fonction de mon accueil. J'avais choisi ma maison parce qu'elle elle avait des chambres en plus, etc. Et je pouvais le faire comme je le voulais, en fait. Ce qui fait qu'ils ont leur chambre, ils ont une salle de bain, ils ont une salle aussi, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Il y a des accueillants qui ont des chambres au milieu de leur chambre et qui partagent la salle de bain avec les accueillis. Ça ne pose pas de soucis.
Ou la cuisine, parce que là, les personnes mangent chez vous, les personnes mangent...
Chez moi, les personnes mangent entre elles. Elles ne mangent pas avec moi. Mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est chaque accueillant fait un petit peu comme il veut.
Et ça vous arrive
et comme il peut.
Oui, bien sûr. Et ça vous arrive malgré toutes les invités, enfin, de faire un repas en commun.
Bien sûr.
Ouais.
Chez moi, on partage les repas du dimanche, on partage les anniversaires, les fêtes. Là, bientôt, ça va être Noël. On va fêter Noël ensemble. Enfin, tout ce qui est repas de famille, autrement, on partage des moments ensemble. Mais dans le quotidien, le soir, ils mangent tout seuls.
Les personnes sont des personnes forcément d'un certain âge ou ça peut être des personnes jeunes accueillies, enfin des adultes quand même.
Les personnes handicapées, c'est à partir de 18 ans. On fait pas du tout, on n'est pas comme les familles d'accueil pour enfants. C'est pas tout à fait le même créneau. Donc les personnes handicapées, c'est à partir de 18 ans. Les personnes âgées, c'est autre chose. Moi, je suis accueillante pour personnes âgées, personnes handicapées. Donc je peux aussi bien accueillir une personne handicapée qu'une personne âgée.
Et là, en l'occurrence, c'est plutôt des personnes...
Actuellement, j'ai deux personnes âgées ont plus de 70 ans.
Et c'est un choix de leur part, enfin, c'est la famille qui les a orientés vers ce mode d'accueil des
personnes. Il y a tout type. Ça peut être soit la personne qui cherche parce qu'elle ne veut plus rester chez elle toute seule, parce qu'elle ne peut plus. Soit elle est prise en charge par des assistantes sociales, etc., qui cherchent un moyen d'accueil. Soit c'est les familles. Il y a tout type, en fait. Le tout, c'est qu'il faut passer par le conseil général pour pouvoir rentrer dans une famille d'accueil. Puisque on peut et forcément débarquer comme ça chez une famille d'accueil, mais c'est difficile.
Ouais, il y a un profil peut-être de personnes qui seraient adaptées à ce mode d'hébergement, d'autres qui seraient mieux en EHPAD. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça se décide aussi.
Imaginons une personne qui a Alzheimer et qui passe son temps à fuguer, etc., qui est dangereuse pour elle-même. Ce n'est pas tout à fait le profil qui est possible, hein, puisque ça devient dangereux pour elle et pour la famille. Donc forcément, il y a quelques critères.
Ouais. C'est quand même des personnes en famille d'accueil qui sont dépendantes. Enfin, c'est pas des personnes qui peuvent vraiment vivre toutes seules. Sinon, elles vivraient toutes seules, non ? Enfin,
si. Ça dépend. Ça peut. S'il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles ne veulent pas rester toutes seules, hein. C'est possible aussi.
Et est-ce qu'on sait s'il y a assez de familles d'accueil dans le Finistère par rapport à la demande ? Enfin, quelle est la situation par rapport à ça ?
C'est un métier qui est pas très connu, hein, qui a du mal à trouver sa place. Qui mériterait d'être développé parce que c'est une bonne alternative quand même à la collectivité. Les personnes en général qu'on accueille chez nous, ce sont pas des personnes qui aiment partir en collectivité, qui veulent garder leur autonomie, souvent qui aiment continuer à aller faire leurs petites courses, à aller chez leur coiffeur, à voir leur médecin, enfin à aller se balader, et que la collectivité ne convient pas parce que c'est quelque chose d'un peu plus lourd. Vivre dans une simple chambre, c'est difficile. Souvent, les familles peuvent avoir aussi des enfants, ce qui intéresse les personnes. Ça donne de la vie, quoi, en fait. Moi, mes deux résidents, quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont aimé aussi, c'est justement parce que j'avais des enfants en bas âge, qu'il y avait des animaux, qu'il y avait une vie, qu'on va au marché, qu'on fait des balades, qu'on va au restaurant, qu'on fait des... et qu'on ait une vie tranquille à la maison aussi, quoi.
Et vos deux résidents, ils étaient originaires du coin, enfin ils ont réussi à rester dans leur coin justement.
J'en ai un, oui, qui était originaire à la base du Finistère, donc qui est revenu et qui était parti sur Paris. Et le deuxième, lui, par contre, est de Concarneau et il souhaitait pas rester sur Concarneau, donc il cherchait quelque chose à proximité, mais pas trop trop loin, quoi.
Ouais. Enfin, il est quand même du coin.
Oui, il est du coin. Ouais.
Mais ouais, d'accord. Et alors, c'est quand même, on comprend quand même en filigrane que c'est un métier, c'est pas n'importe quel métier. Enfin, c'est quand même un métier où il y a quelque part beaucoup de contraintes, non ? Enfin, il faut quand même les rappeler, peut-être.
On a une astreinte, puisqu'on a. Il faut d'abord accepter d'avoir une personne 24 heures sur 24 chez soi. Parce que c'est ça. On ne peut pas se dire, bon, on le prend la journée, le soir, j'ai envie d'aller au resto, j'y vais, point barre. Non. On a une obligation d'être là. Donc, soit on se trouve un remplaçant.
Donc on peut, mais pas n'importe qui, peut-être. Enfin...
Voilà.
Ouais.
Soit la personne, elle vient avec nous, ni plus ni moins.
C'est ça. Et oui, si un remplaçant, ça pourrait être quand même quelqu'un juste qui est majeur et puis relativement responsable. Ça peut être ça, ou un enfant de la famille qui est adulte, ou ça peut être
un enfant de la famille qui est adulte, oui, il faut obligatoirement qu'il soit majeur. Mm-hmm. C'est ni plus ni moins que si vous aviez un enfant en bas âge, par exemple, vous ne le laissez pas tout seul, quoi. Ouais. Donc, d'où nos résidences, c'est pareil. On ne les laisse pas tout seuls comme ça parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis, on est quand même là pour pallier à des problèmes.
Et justement, la formation pour être accueillante familiale, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend ?
La formation de base, c'est essentiellement sur la législation, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit, comment accueillir, un petit peu les pathologies qu'on peut avoir, etc. Et après, de tout au long, on a de toute façon des journées de formation continue avec le Conseil Général, entre 2 ou 3 jours par an où on va, quoi.
Et il y a des formations, je ne sais pas, au premier secours, enfin, plus techniques peut-être, non ?
Ouais.
ou à l'alimentation en particulier, enfin, parce qu'il faut faire à manger hein, aussi, c'est ça, les personnes.
Si on s'occupe du quotidien, donc on a l'alimentation, forcément le ménage, l'entretien du linge, l'entretien de tout ce qui concerne la personne en fait, la paperasse, etc. Même si bien souvent les personnes elles sont sous tutelle ou curatelle, on a quand même tout ce qui est la vêture, etc. à voir aussi avec la personne, quoi.
Et la personne est incitée à participer aux tâches ménagères, c'est ça en
fait. Alors là, c'est chacun qui fait comme il veut chez lui.
Ah ouais, ah d'accord.
Il y a des familles où les résidents font énormément de choses, il y a d'autres où les résidents ne sont plus en capacité de le faire.
Oui.
On peut aussi avoir des personnes qui sont alitées et qui sont jusqu'à la fin de vie. Hein. Donc, ces personnes-là, on ne peut pas leur demander de faire quoi que ce soit.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui.
Après, le but du jeu, c'est quand même de garder un maximum l'autonomie des personnes. Et dans ce cas-là, les faire participer aux tâches de la vie quotidienne, c'est aussi ce qui permet de garder sa forme le plus longtemps possible.
C'est ça,
quoi.
C'est les mobiliser physiquement, tout simplement. Quoi.
Ouais.
Mm-hmm. En faisant attention aux troubles musculo-squelettiques, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Qu'il ne se passe pas mal au dos. Et il y a aussi un aspect sur tout ce qui est entraînement intellectuel, entre guillemets. Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple?
Qu'est-ce que je leur propose en entraînement intellectuel? Chez moi, ils aiment beaucoup faire des jeux de société. J'en ai un qui lit énormément, par exemple, qui adore ça. Ça peut être des sudokus, ça peut être... Il y a un peu de télé, c'est sûr, le soir. Ils ne sont pas trop télé chez moi, dans la journée. Mais il y a beaucoup de balades, beaucoup de...
Des sorties, quoi.
Oui, des sorties. Enfin, je sais pas, comme la vous, vie, chez vous.
Ouais. Mais faut avoir une grande voiture, du coup, quand on a beaucoup de résidents. Ou une famille nombreuse.
Oui.
Faut investir un peu.
Bien sûr qu'il faut qu'on investisse. Tout ça, on n'a pas de moyens financiers pour nous aider.
Donc, c'est la question que j'allais poser. Ouais.
C'est de notre poche à la base.
Ah
quoi.
Ouais, le conseil départemental ne donne pas quand même une aide pour
aménager. Non, on n'est pas un foyer, on n'est pas une collectivité. Donc, on ne peut pas bénéficier d'aide spécifique. Donc, moi, quand j'ai voulu m'installer comme famille d'accueil, il a fallu d'abord que je trouve un logement adéquat. J'avais des enfants relativement en bas âge à cette époque-là. Donc, il m'a fallu trouver une grande maison. Et puis, investir dans la rénovation, puisque elle n'était pas très adaptée. Donc, mine de rien, c'est une douche qu'il a fallu mettre en place. C'est du mobilier aussi. C'est un mobilier basique qu'il y a, un lit, une table de chevet, une commode, etc. Et puis, voilà.
Et quelles étaient vos motivations? Pourquoi vous avez voulu faire accueillante familiale?
Oh là là! Ça date de très très longtemps, quand j'étais gamine, quoi. Je faisais beaucoup de bénévolat quand j'étais gamine et j'avais rencontré des assistants familiaux et j'ai trouvé formidable ce qu'ils faisaient pour les gamins. Et j'étais toujours à la recherche, je ramenais les petits oiseaux blessés à la maison, quoi. Et puis j'ai grandi, je suis partie, j'ai fait beaucoup de choses dans le social et à un moment donné, j'ai voulu retourner vers un métier où j'avais le temps de faire les choses, alors qu'en structure, 9h, 17h, on fait des choses puis on passe à autre chose, quoi.
Ouais, on n'a pas le temps de créer des relations avec les gens, quoi.
Ouais, voilà. Et j'ai voulu retourner là-dedans parce que là, j'ai le temps de faire. Je suis moins de personnes. J'en ai que deux actuellement, alors que j'ai un agrément maximum pour 3 personnes. Je prends le temps de faire les choses. Si à 9h, j'ai pas le temps de faire un truc, c'est pas grave, je peux le faire l'après-midi. Ou si aujourd'hui, on n'a pas trop envie de sortir, c'est pas grave, on fera demain. Là, j'ai le temps de voir les choses. J'ai le temps de m'occuper des personnes. J'ai le temps de prévoir les choses. Et puis, j'ai le temps d'avoir une vie à moi aussi, quoi.
Alors, c'est aussi la question que j'allais poser. C'est que même si l'agrément d'accueillante familiale, c'est pour vous, Valérie Perrault, mais le reste de la famille est forcément impliqué. Puisque
on ne peut pas faire ce métier-là sans que la famille n'adhère.
Et donc
c'est pas possible puisqu'on vit 24/24 avec les personnes. Et si on a besoin d'aller faire des courses ou si on veut partir en vacances, etc., ces personnes-là, on ne peut pas les abandonner, quoi. Donc forcément, la famille est au courant, elle adhère. C'est l'un des critères d'ailleurs que voit la psychologue quand on vient pour l'agrément.
Les enfants, par exemple, pour vous, ils avaient quel âge quand vous êtes lancée là-dedans?
J'étais enceinte de mon dernier, quand j'ai eu mon premier agrément. Et ma plus grande, elle avait 8 ans de plus.
Et qu'est-ce qu'elle a dit?
Ben, dans l'ensemble, ils étaient plutôt contents puisque c'est aussi pratique pour une maman d'élever ses enfants en étant à la maison, même si j'avais des personnes à m'occuper en plus. Mine de rien, en cas d'enfant malade ou les mercredis ou les vacances, maman est à la maison, donc on n'a pas besoin de courir partout. C'est un autre mode de vie.
Ouais. Ça s'est bien passé. Enfin, dans votre cas, c'était ça s'est bien passé familialement parlant, quoi.
Oui. Ouais. Maintenant, il y a aucun de mes enfants qui veut reprendre le chemin.
Oui, mais bon, voilà.
Mais c'est parce qu'ils veulent découvrir autre chose aussi, aller sur l'extérieur.
Ouais.
Ils voient aussi les contraintes, mais ils voient aussi le positif, puisqu'ils continuent quand même à venir à la maison en disant bon, maman, elle est à la maison, donc ça va.
Ouais. Puis peut-être qu'ils y viendront plus tard aussi.
Et puis ça leur a donné aussi beaucoup d'empathie, en fait. Ils ont découvert ces milieux-là. Ils sont quand même très proches de. Très proche des gens, de l'écoute. Ouais, ils ont une période à l'adolescence où ils sont un peu moins contents parce que c'est un peu honteux de se balader avec des personnes âgées ou des personnes handicapées, au même titre que ses grands-parents. Hein. On n'a plus trop envie. Ouais. Et puis après, ça revient.
Et les résidents en question, donc quand ça se passe, enfin quelle est la relation qu'on peut tisser. Alors déjà c'est intéressant puisque comme vous avez un agrément pour une troisième personne, là il y a une troisième personne qui va arriver. Alors comment ça se passe quand une nouvelle personne arrive en fait déjà. Comment est-ce qu'on la phase d'apprivoisement. Enfin je sais pas comment on s'apprivoise mutuellement. Comment ça se passe. Comment on sait que ça va marcher ou pas en fait.
C'est du feeling. Hein. C'est vraiment du relationnel, donc il y a pas de profil type, etc. C'est vraiment où le contact passe, où ça passe pas. Et après, c'est les contraintes, aussi bien d'un côté hein, de la personne accueillie que de la personne qui accueille, c'est est-ce que ça va coller, est-ce qu'on réussit à s'entendre, est-ce que ça convient notre façon de vivre, lui conviendra, est-ce que lui c'est pareil, sa façon de vivre, ça peut coller. Mais c'est au même titre que quand vous avez un nouvel amoureux par exemple, c'est pas dit que ça fonctionne non plus parce que vous avez pas les mêmes visions, la même façon de faire, etc. Donc là, je dis pas que c'est un amoureux votre accueilli, mais... C'est une nouvelle personne, comme quand vous accueillez un nouvel enfant à la maison, c'est une adaptation qu'il y a, il faut essayer, et puis chacun fait des concessions, et puis voilà.
Oui, mais c'est quand même un contrat, enfin, on s'engage à vie, non ? Comment ça se passe ?
Non,
en fait
c'est un contrat de gré à gré, mais qui peut être arrêté ou à la demande de la personne accueillie ou à la demande de la personne accueillante.
Donc on peut se tromper.
Il y a un préavis,
ouais.
Oui.
Ouais. Ah oui, il y a un préavis, oui, j'imagine, oui, on ne va pas se séparer.
Bien sûr, ou à un moment donné, ça ne convient plus.
Oui, parce que les personnes peuvent, par exemple, celles qui sont atteintes de maladies psychiques, peuvent évoluer, enfin changer aussi de personne, pas de personnalité quasiment, non ?
Bien sûr.
Mm-hmm. Et donc là, ça doit. Alors, quand la personne arrive, donc elle teste un peu, là, c'est ça, pendant un mois. Il y a un essai, il y a un protocole de.
Le protocole, c'est il y a pas vraiment de règles définies. Disons qu'on fait quand même une période d'essai. Dans le contrat, de toute façon, il y a une période d'essai d'un mois minimum. Avant de conclure un contrat définitif. Après, il est souvent. C'est plus dans les mœurs où on accueille la personne sur une petite période déjà pour voir si ça lui convient. Puis on fait le point avec, parce que je ne vous ai pas dit, mais on est suivi quand même par un service de suivi qui est une délégation du Conseil Général qui passe chez nous. Dans le Finistère Sud, c'est le CHIC de Quimper.
Dans le Finistère.
Oui, dans le Finistère Nord, c'est l'association... J'ai oublié.
Une association.
Oui. Ça me reviendra. Et donc, ce sont des éducateurs, des assistantes sociaux qui nous suivent et qui voient si
oui,
tout va
si
bien.
S'il n'y a pas de maltraitance, parce que j'imagine que ça doit arriver aussi.
Comme partout, en fait.
Oui, c'est ça.
Ni plus ni moins. Et puis, on fait ensemble le projet de vie de la personne aussi. Ses vacances, ses loisirs, sa santé, son médical, etc. Enfin, tout ça, c'est à voir.
Et ces personnes ont de la famille aussi. Alors, est-ce qu'on reçoit la famille de ces personnes? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Ça, c'est pareil. C'est au bon vouloir des familles et des résidents. Moi, j'ai deux résidents actuellement. J'en ai un qui a de la famille, qui voit régulièrement, etc. J'en ai un autre qui n'en a plus.
D'accord. Ah ouais. Bon, après, ça fait combien de temps là, que vous êtes accueillante familiale?
16 ans.
Et c'est toujours les mêmes résidents depuis le début ou vous avez changé ?
Non, j'ai eu d'autres personnes auparavant. J'en ai un qui est à la maison depuis 10 ans, l'autre depuis 8 ans. J'avais eu d'autres personnes auparavant.
Et quand la personne s'en va ou décède, enfin, je ne sais pas ce qui s'est produit dans votre cas, comment ça se passe ?
Bah, c'est une rupture de contrat avec préavis.
Mais je veux dire, affectivement parlant, quoi. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est vous n'avez pas eu de décès, peut-être ?
Non, moi, je n'ai pas eu de décès. Bon, j'ai pas eu de personne décédée. Ouais. Oui. Bah, là, c'est pareil. Hein. C'est comme le décès d'un ami, d'un proche.
Oui.
Bah, il faut gérer ça, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on appréhende, j'imagine, forcément, quoi.
Bah, moi, pas trop, non. Non, non, mais moi, auparavant, j'ai fait de l'accompagnement aussi de fin de vie. Donc, je suis un peu... Je sais pas, j'estime que mon métier, si je vais jusqu'au bout comme ça, bah, j'ai accompli ma tâche jusqu'au bout.
Ah oui, complètement, oui, oui, tout à fait. Ça, je pense qu'on peut, on peut après, se regarder dans on la peut, glace.
Après, ouais. Tout accueillant peut arrêter auparavant aussi. S'il estime qu'il ne... Enfin, qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, il n'est pas obligé, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment le feeling de la personne. C'est ça qui est bien dans notre métier aussi, parce qu'on est aussi notre propre phare. À un moment donné, on est libre de choisir aussi.
Mmh. Et d'un point de vue économique, entre guillemets, donc, les personnes vous payent, hein, je disais.
Bien sûr.
On s'y retrouve quand même, même si on doit faire des investissements au départ, ça va, on gagne quand même correctement sa vie.
On a une rémunération de base, hein, suivant le degré d'autonomie de la personne. Hein. En théorie, on peut faire nos propres grilles salariales, puisque c'est un contrat de gré à gré. Après, le Conseil général édite une grille. Moi, je vous avoue que je ne m'embête pas, je l'applique purement et simplement. C'est plus simple. Et bah, comme j'ai des personnes âgées, moi, c'est suivant le GIR. Comme si la personne
c'est
allait...
Quoi, le GIR
Le GIR, c'est le degré d'autonomie de la personne. D'accord. Qui est donné par le... Bah, c'est le médecin du Conseil général qui dit s'il dépend... Il y a des critères sur la toilette, l'autonomie, manger seul, se déplacer, etc. Et voilà, je me perds dans mes idées.
Non, mais c'était pour savoir combien... Enfin,
après, on est rémunéré, donc on a un salaire de base. Mmh. On a, des suggestions de tout ce qui est nourriture, loyer, l'astreinte, etc. Mmh. Ce qui fait que pour avoir une rémunération correcte, il nous faut deux personnes.
Oui, c'est ça, oui. Et pour les personnes, est-ce que c'est globalement plus cher, moins cher qu'un EHPAD ?
On est beaucoup moins cher qu'un EHPAD.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment, on n'aurait pas forcément cru.
Non, parce que les EHPAD, ça tombe bien, parce que j'ai mon papa qui est rentré à l'EHPAD cette année, et on s'est aperçu que l'EHPAD, on a l'impression que c'est le même tarif, sauf que l'EHPAD, l'APA est déduit directement.
Donc là-bas, alors, c'est l'allocation pour les personnes âgées.
Voilà, alors que nous, non.
Ah oui, d'accord.
Okay. Donc, on est... quand même moins cher. Mine de rien, il y a quand même parfois 600 euros de différence. Quoi. Oui. Pour une famille, à la fin, c'est quand même pas mal.
Ah oui, donc c'est vraiment l'accueil familial, c'est vraiment une formule à connaître. Hein. Là, vraiment,
oui.
Bon, bah, nous, on en a fait la promotion aujourd'hui dans l'émission. On peut dire un mot quand même de cette association A2F, Accueil Familial en Finistère. Qu'est-ce qu'elle fait déjà ? C'est quoi son objet ?
Alors, l'objet d'A2F, c'est justement de faire un lien entre les familles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier où on est chez soi, donc on est quand même relativement isolé. Et A2F, ça permet de faire du lien entre les familles et de faire des balades, des restaurants. On est même parti en vacances une semaine ensemble. Là, on a visité La Rochelle, etc.
À combien de familles ?
On était 48, je crois, en tout, mine de rien.
Ah oui.
Puisqu'on fait des échanges avec d'autres départements.
Ah oui,
Et on s'est retrouvés, certains de Haute-Loire, etc. Et on s'est retrouvés à La Rochelle et on a passé une semaine ensemble.
Et il y a une seule association comme A2F par département, non ?
Non, il y a plein d'associations départementales et il y a des associations nationales aussi qui permettent aussi de porter notre parole au niveau du gouvernement et des projets de loi sur le grand âge, etc. Quoi.
Et alors justement, on a une minute et demie là, pour parler des revendications. Quelles seraient-elles alors ? Revendication d'une accueillante familiale.
Ah, la reconnaissance de notre métier. Hein.
Ah oui, vous n'êtes pas reconnue.
Pas vraiment, puisque quand on essaie de placer une personne, c'est pas forcément l'accueil en famille d'accueil qui est mis en avant. Mmh. On connaît pas beaucoup, c'est plutôt les EHPAD, c'est plutôt les foyers qui sont prioritaires, entre guillemets. Alors que ce système, ça permettrait de faire vivre du monde à domicile et de faire. de faire travailler des gens aussi, quoi.
Ouais. Donc c'est
après, c'est des revendications salariales, bien sûr, puisque, par exemple, on n'a pas droit au chômage.
Ah bon ?
Non.
Ah oui, parce que vous n'avez pas vraiment un statut salarié, en fait.
Quoi. Non, on n'est pas salarié. On est salarié de la personne qu'on accueille.
Ah oui, et c'est, mais par contre, les assistantes maternelles, elles ont droit à
elles, elles
chômage,
ont eu, oui, mais pas nous.
Ah, bon, alors ça, c'est une vraie revendication, en effet. Ouais.
Qu'on porte depuis des années, ça date d'avant de quand j'ai commencé, moi.
C'est incroyable.
Mais ça ne change pas. Là, il était question de refaire quelque chose avec la loi qui devait passer, mais ça a été abandonné. Et on est reparti pour un tour.
Bon. Très bien.
Advienne que pourra.
Bah oui, en tout cas, on a retenu que c'est vraiment un mode d'accueil très intéressant. Merci à Valérie Perrault pour ce témoignage.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois, j'espère.
Oui.